Luigi Capuana, le Tabutu, la maison de Don Stenario Blanco était un véritable arsenal. En circulant dans ses grandes chambres aux murs noircis, au plafond tapissé de toiles d'araignée, lui et sa sœur Donna Salvatrice semblaient perdus au milieu de tous ces objets entassés pêle-mêle, couverts de poussière, et qui dégageait une odeur de vieillerie en état de fermentation. Don Stellario et Donna Salvatrice y avaient le nez fait, s'en étaient plus importunés. Mais quand on entrait là pour la première fois, on était suffoqué et pris de nausées irrésistibles. Ils veulent économiser jusqu'à l'air qui ne leur coûte rien, disait Maître Crocelopiro, leur menuisier, quand le compère l'appelait pour rafistoler les volets qui tombaient en ruine, ou pour assujettir avec deux vieux clous un morceau de planche pourri sur une porte qui ne tenait plus. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de tout l'argent que vous avez mis de côté depuis 50 ans? Vous ne pourrez pas l'emporter dans l'autre monde. Don Stellario riait des réflexions de son compère, surnommé Luce di Collo. Mais Donna Salvatrice, les cheveux mal peignés et vêtue de haillons qui lui donnaient l'air d'une mendiante, rabattait le caquet du bavard. Mais de quel argent parlez-vous, Maître Croce? Vous voulez attirer les voleurs chez nous avec vos extravagances? Pour les voleurs, nous avons ces outils-là, ajoutait Don Stellario. En effet, dans les coins de chaque pièce, on voyait deux ou trois vieux fusils rouillés et poudreux. Et cette bravade faisait sourire Maître Croce, qui connaissait bien le bonhomme. Tous les soirs, après l'Angélus, Don Stellario se barricadait chez lui, comme s'il s'attendait à être attaqué d'un moment à l'autre. Et la nuit, maintenant que la vieillesse ne lui accordait que des sommeils courts et intermittents, il faisait le tour de sa maison, à demi vêtu, une lumière d'une main et un pistolet de l'autre, suivi de Donna Salvatrice, qui sautait à bas de son chenil, en jetant sur ses épaules un manteau de drap mangé au vert, dès qu'elle entendait traîner les savates de son frère. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, va te coucher, je vais donner un coup d'œil. Donna Salvatrice ne l'écoutait pas et marchait derrière lui, tapis dans son manteau, le suivant de chambre en chambre, guettant autour d'elle avec des yeux dilatés par la crainte des voleurs, ramassant sur son passage un objet tombé par terre ou une chaise penchée sur les trois pieds qui lui restaient. Tiens-toi tranquille, ne fais pas de bruit, lui recommandait Donna Stellario. Puis il descendait à la cave, entre trois grands files de jarres pleines d'huile d'olive, avec Morte au centre, comme on appelle la jarre enfouie dans le sol à fleur de terre, pour le cas où l'eau des récipients venant à se briser laisserait l'huile couler. Sur le sol rendu exprès dur et poli, on marchait avec peine, en risquant de glisser et de se casser le cou. Ils avançaient avec méfiance, craignant toujours de découvrir quelque mauvais sujet caché dans un coin, derrière une jarre, dans l'intention d'ouvrir la porte à ses complices et de les faire monter, d'assassiner les propriétaires dans leur lit et de se dévaliser la maison. De temps en temps, un rat, gros comme un chat, se glissait le long des murs et disparaissait dans un trou des parois humides, ou bien sautait sur les couvercles de bois des jarres, poursuivi par la lumière de la chandelle que Don Stellario tenait en l'air afin de mieux voir. Ils étaient si bien habitués tous les deux à ces courses de rats, pareilles à celles d'animaux domestiques, qu'ils ne s'en occupaient point. Seulement, Donna Salvatrice passait en revue les couvercles les soulevant pour s'assurer que quelque maudit rat n'était pas noyé dans l'huile et ne risquait pas d'en gâter 4 ou 5 quintaux. Et c'eût été grand dommage. Il passait ensuite dans une autre cave imprégnée d'une odeur vineuse qui donnait le vertige. Et se faufilant entre le mur et les tonneaux, regardant en haut et en bas, décrochant les toiles d'araignée avec leurs coudes et avec leurs têtes, s'arrêtant devant des barils de prédilection, où était un vin vieux qu'on rendait le plus cher, tâtant les douves, examinant les bornes pour s'assurer que pas une goutte de liquide ne se perdait, c'eût été un grand dommage. Et, content et satisfait, il remontait visiter la cuisine, les mansardes, tous les autres dépôts, aussi minutieusement qu'ils avaient fait pour l'écurie, le poulailler et le magasin de grains. Rien, disait Don Stellario. Grâce à la Madone la Stella, répondait Donna Salvatrice. Éclaire-moi et ferme la porte. Elle évitait ainsi d'allumer sa chandelle pour retrouver son grabat qu'elle avait le toupet d'appeler son lit. Et dans le scénario, en toussant, retournait se fourrer sous la couverture de sa couche, aussi sordide que celle de l'assasseur. Et toutes les nuits, cela recommençait. À l'aube, néanmoins, Donna Salvatrice était debout et appelait Commère Stella, sa voisine d'en face, pour qu'elle vienne lui donner un coup de main. Il y avait toujours quelque ouvrage à faire. Tantôt, monter le blé à remettre au meunier, tantôt, maner le grain et emplir les sacs, tantôt, mesurer les fèves et les pois chiches à partager avec les métayers, suivant les saisons, ou bien préparer les barils pour la prochaine vendange, saler les olives, s'occuper de la vente en gros et en détail, de l'huile, du vin, et jusqu'à des légumes et des fruits, de sorte que le vestibule ressemblait parfois à une boutique de comestibles, et la chambre avait l'odeur âcre dont les murs étaient imprégnés depuis longtemps déjà. Ici, rien n'est perdu, disait Commère Stella, remplie d'admiration. La pauvre femme travaillait comme un nègre toute la journée pour le morceau de pain dur et la poignée de fèves que Donna Salvatrice lui offrait généreusement tous les soirs quand sonnait l'Angélus avant de lui fermer la porte sur les talons. Et souvent, Don Stellario grommelait contre sa sœur qui l'accusait d'avoir la main trop large. N'est-ce pas suffisant, la moitié d'un petit pain? Les journées où il n'allait pas à la campagne, monter sur sa vieille ânesse pelée pour faire un tour dans les champs et donner un coup d'œil aux terres consemencées, aux oliviers, à la vigne, et surveiller ces brigands de métayers qui ne songeaient qu'à le voler, Don Stellario ne manquait jamais d'entendre la Sainte Messe, celle du Rosario, sa dévotion particulière. Et en se rendant à l'église, il ne manquait pas non plus de s'arrêter une minute dans la boutique de compère Nolce di Collo, qui se trouvait justement sur son chemin, au coin de la place de Santa Maria della Stella, paroisse de Donna Stefario. C'est pourquoi on lui avait donné son nom lors de son baptême. La boutique de Maître Croce était un bouge encombré de bois de qualité inférieure. Il ne travaillait pas finement. Il ne servait que les paysans pour qu'ils fabriquaient des charrues de forme primitive, des bâts pour les mules de labour, des colliers garnis de cloches pour les bœufs, des portes grossières, des mares des tables de sapin avec pieds tournés ou non, suivant la commande. En attendant l'appel de la cloche, Dans le salario, s'amusait à observer le compère attentif à l'ouvrage, à manche de chemise et les lunettes à cordons sur son décrochu. « Bonjour, compère. Bénédicité, monsieur mon compère. » Maître Noce Nicolo était peu causeur lorsqu'il travaillait. Le salut rendu, il continuait à raboter, à scier, ou donner de bons coups de hache accompagnés de « hon, hon, hon », une sorte de grognement. Et Don Stellario, clignant des yeux, crispant les lèvres à chacun de ses « hon », secouait la tête comme s'il faisait un effort pour aider le menuisier. Dans les intervalles, outre une prise de tabac et un coup de mouchoir sur le front, ou pendant que le maître Noce Nicolo installait sur son établi une grosse pièce de bois brut, Don Stellario lui demandait « Quoi de neuf, mon compère ?»« Ben, celui qui a de l'argent peut manger, celui qui en a pas se frotte le ventre. C'est pas nouveau. » La plus belle nouveauté, aussi vraie qu'un dieu, ce serait de ne plus me casser les bras à force de scier et de raboter, et que je m'en aille chez vous pour boire et manger sans rien faire. Au lieu de cela, vous le voyez, faut que je me mette à écarrir ce tronc d'arbre. Les grognements étaient plus forts, plus saccadés, et dans ce scénario, qui ne pouvait s'empêcher de secouer tout le corps, selon que le bras montait et descendait, devait se reculer vers la porte afin d'éviter les éclats de bois. Ordinairement, Don Stellario rencontrait là quelques paysans qui veillaient à l'exécution d'une de ses commandes, et Don Stellario entamait alors une conversation sur les travaux des champs. Maître Croce n'ouvrait pas la bouche, mais quand il entendait le compère pleurer misère à cause des impôts, des mauvaises années, du commerce qui n'allait pas, il lui disait « Vous avez bonne mine de vous plaindre, vous, qui avez de l'argent à remuer à la pelle. »« Oh, toujours la même chanson, » répondait Don Stellario, fâché de s'entendre parler ainsi devant témoins. Et il se sauvait à la messe. Un matin, il trouva Maître Noce Nicolo au comble de l'exaspération. Il braillait sur le seuil de sa boutique, au milieu d'un groupe de femmes et de paysans qui riaient devant une bière mise en travers de la porte. Mais qu'est-ce que j'en ferai, corpo, sangue? Taisez-vous, ne blasphémez pas, lui disait une vieille en faisant des signes de croix. « Mais allez-vous-en tous, sangue, corpo, ou je vais la flanquer sur la tête. » Ayant vu s'approcher Don Stellario, il apostropha. « Voilà vos belles façons d'agir, à vous autres gens riches. » On n'avait jamais vu cela, un cercueil dans la boutique de Maître Croce. Mais la nuit précédente, on était venu le réveiller de la part de ce filou de Don Pietro Nigido Ciocofesido, un sobriquet bien appliqué. Son fils était mourant, vite une bière, et il avait travaillé toute la nuit pour gâcher quatre superbes planches de ses poulets. Eh bien, maintenant que le malade va mieux, Ciocofesido, répond qu'il ne sait pas quoi en faire du tubutu. Ben, vendez-le à un autre, Maître Croce. Ben, qui le vendrai-je? Oh, je l'appellerai devant le juge de paix. Ou non, même plus loin, si j'obtiens pas justice. Quatre planches de 6 pieds et une nuit de travail. Mais est-ce qu'il ne mourra plus personne? Répondit en riant dans le scénario. Que voulez-vous qu'il prenne? Il est fait sur mesure. Voleur, filou! Se remettait à hurler Maître Croce. Et il donnait des coups de pied à la caisse qui résonnait sourdement. « Ne la brisez pas !» ajouta Don Stellario. Le menuisier, continuant à cogner dans la bière, l'avait déjà fait rouler dans la boutique. « Elle est solide !» observa Don Stellario. « Et avec un couvercle bombé !»« Ben, il a voulu comme ça pour me donner plus d'ouvrage. Fil ou voleur ! Oh, je commettrai quelques folies ! Je le clouerai là-dedans, lui !» Cruce vestido. Depuis lors, toutes les fois que Don Stellario s'arrêtait devant chez Maître Croce, il levait les yeux vers le tas de bois en haut duquel on avait juché le cercueil. Il est toujours là-haut, ce Tobutu. Il ne pouvait s'empêcher de rire du geste rageur par lequel son compère lui répondait. Et il regardait là-haut, il regardait, pendant que le menuisier continuait à raboter et à donner des coups de hache en poussant toujours des « ah !» Une idée lui trottait par la tête. « Et si je l'achetais, cette caisse, ce serait une belle économie !» Mais il n'en disait rien à Maître Grancelicolo, pour laisser passer le temps et rendre le bonhomme convaincu qu'il serait bien de s'en débarrasser à moitié prix. Personne n'en voulait. Il en avait parlé à sa sœur pour rire de la mésaventure du compère. Belle caisse, solide, avec un couvercle comme une malle. On dépenserait au moins 50 francs pour en avoir une pareille. « Faites exprès, en cas de mort. Les menuisiers abusent de ce qu'on est pressé. L'occasion se présente rarement. Faut s'incliner devant leurs exigences. » Il en causait à table, dans les courts moments où ils avalaient quelque chose, de la soupe aux herbes et quelques olives que Donna Salvatrice mangeait souvent debout pour courir dans le vestibule servir elle-même un litre de vin à une cliente. Aujourd'hui, 24, là, le sel qui est piqué, off. Si on ne le vend pas rapidement, il tourne au vinaigre, grommelait Donna Salvatrice. Colenasca, on voulait un fût. Oui, un boisson de fèves. Sistari, bon, cela vaut mieux que rien, les temps sont durs. Et le soir, avant de se coucher, il comptait l'argent et il le rangeait ça et là dans un vieux bar au fond d'un tiroir, entre les plis d'une pièce de toile, dans un vieux carton à chapeau caché dans un coin ou dans un tas de noir. Et il faisait des marques avec des bouts de papier. De ce façon, les voleurs ne pouvaient tout emporter. Mais le vrai magot se trouvait enfoui dans la cave, tout en pièces de 12 taris d'argent. Et comme il continuait à appeler les pièces de 5 francs, et à côté, dans un pot de terre plus petit, les monnaies aux yeux rougis, les louis d'or. De temps en temps, Don Salario déterrait le magot pour s'assurer qu'il était encore là et ajoutait une poignée de monnaie aux yeux rouges ou un sac de pièces d'argent. 20 sacs. Oui, 20, répétait Donna Salvatrice. Et lorsque Colanasca venait prendre sa charge habituelle de 20 et qu'il disait par plaisanterie en frappant du pied sur le sol « Où est ici le magot ?» Donna Salvatrice avait des tressaillements, quoique le magot ne fût pas juste à cet endroit, mais sous le tonneau de la Madone et au fond de la cave. Cette espèce d'ivreur, il s'est peut-être aperçu de quelque chose. Et une nuit d'hiver, qu'il pleuvait à torrents, ils changèrent le magot de place. dans le Stellario, avait creusé un trou derrière la barrique de Saint-François. Et chaque fût portait le nom du saint, dont on voyait l'image appliquée sur les douves, puis de la bonde pour empêcher le vin de se gâter. Et Donna Salvatrice avait aidé son frère à préparer cette cachette et à déposer le grand broc de terre bouché de linge, liège, qui contenait les pièces d'argent et le vase avec les monnaies aux yeux rouges. Oh, une rude fatigue, positivement. Mais à présent, ils pouvaient dormir tranquilles. Le sol était bien battu, ils y avaient répandu un tas de gravats et d'immondices, et leur aurait dit que ces ordures se trouvaient là depuis 100 ans. « Toujours là, ce Tembutu, Ah, il attend que Tchouko ait été en crève. Il servira pour lui, où il n'y a pas de bon Dieu là-haut. » Maître Nocelicolo ne pouvait pas en entendre parler. « Vous devriez le démolir et vous servir des planches. »« Et le travail, qu'est-ce qui me le paiera, le travail ?»« Mais garderez-vous toujours cette jettatura ?»« Mais prenez-la, vous !» répondit Maître Nocelicolo, irrité. « Moi ? Alors pourquoi tourmentez-vous, mon cher compère ?» Ayant vu que le bonhomme avait l'air d'en venir de lui-même à l'idée qui lui trottait plus que jamais par la tête, Don Stellario n'avait encore rien dit cette fois. Mais si Maître Nocelicolo me cède cette boîte-là pour 15 francs, ce sera une bonne affaire aussi pour lui. Et maintenant, cette caisse lui faisait envie. Aussi, Dom Stellario voulait-il plus souvent faire une petite visite à son compère, même sous le prétexte d'aller à la messe du Rosario. Et depuis quelques semaines, il s'approchait de la boutique avec un peu d'anxiété. Il craignait qu'un autre n'eût été plus leste que lui. Entendant parler d'un malade sur le point de mourir, il pensait... Oh, je voudrais bien voir que cette caisse serve pour cet idiot-là. » Et il se décida le matin où il trouva Maître Nocelicolo, qui jurait comme un mécréant. Tous les malheurs m'arrivent. Il y avait une bonne occasion de me débarrasser de ce Tembutu du diable. Il s'est trouvé trop étroit pour le gros ventre du notaire Trirlard. « Allons, dit Don Stellario. Si vous êtes raisonnable, je vous le prendrai pour moi. Qu'est-ce que vous en ferez ? Je vous en donne 10 francs. » Maître Nocce lui jeta un regard de travers. « 10 francs ? Bof, je le fais uniquement pour vous. Nous ne sommes pas complices. « Puisse pour rien !» ajouta Don Stellario en riant. Maître Nocce mugissait. « Oh, c'est le San Giovanni qui me retient. Sinon, je vous la donnerai, la réponse que vous méritez, mon compère. Allez, 15, et que ce soit fini. Mais pas seulement le prix des planches, 4 belles planches de sapin de 6 pieds. « Bon, allez, 15 francs, une bouteille de vin. Allez, apportez-le-moi demain matin. C'est pour vous rendre service. » Maître Croce tint bon. 2 jours après, Don Stefano vint à la charge. « Êtes-vous toujours aussi entêté ? Allez, 15 francs, une bouteille de vin. Oh, j'aimerais mieux la brûler. Mais c'est pour vous rendre service, croyez-le bien. » Cette fois encore, le pauvre maître Croce fut inflexible. Mais Don Stellario ne s'avoua pas vaincu. Et il parvint à ce qu'il voulait le jour où, ne sachant où donner de la tête pour payer son loyer, le menuisier lui dit d'une voix suppliante « 20 francs, mon compère. Le bois me coûte plus que cela. Non, 15. » « Oh, vous supprimez le vin ? Pas une bouteille de vin, puisque je l'ai promis. » À ce prix, le Tabutu était réellement donné. Le lendemain, à l'aube, Don Stellario, qui était levé de bonne heure, alla lui-même ouvrir le portail en entendant frapper le menuisier qui apportait le cercueil. « Montez-le dans la grande chambre !» Donna Salvatrice bondit d'étonnement et se signa plusieurs fois en voyant entrer cet objet dont son frère avait parlé à maintes reprises, sans jamais lui faire part de ses intentions. « Mais que voulez-vous en faire, Madonna del Stella ?»« Tais-toi, c'est une bonne affaire !» lui murmura-t-il à l'oreille. « 15 francs et une bouteille de vin !» « Mais tu sais, celui qui est piqué !» ajouta-t-il en baissant encore la voix. « Eh, mon compère, vous m'enlevez au moins 10 francs de ma poche !» s'écria le maître Nocelicolo en prenant l'argent et la bouteille. « Je boirai le vin à votre santé !» À dîner, quand il le goûta, maître le Crochet vit une grimace épouvantable en sentant la sueur du saveur du vinaigre. « Le voleur !» « Que Dieu diable l'emporte !» s'écria-t-il, en versant le reste du vin par terre. Fin de la première partie. Capuana, le Tabutu, deuxième partie. « Mais que ferons-nous de ce cercueil ?» répétait durant les premiers jours Donna Salvatrice, fâtée contre son frère, parce qu'il avait fait apporter chez eux cet objet de mauvais augure. « Il servira dans 100 ans, pour moi ou pour toi. » Donna Stellario disait cela tranquillement, réfléchissant sans malice que sa sœur avait 50 plus que lui. Il lui semblait naturel qu'étant née la première, elle dut mourir aussi la première. Et pour la réconforter, il ajoutait « Ma foi, c'est une caisse comme une autre, elle peut servir à n'importe quoi. » La vérité, c'est que ni à l'un ni à l'autre, bien qu'ayant dépassé la 60aine, il ne venait l'idée qu'un jour il devrait s'en aller au cimetière et laisser la cave renfermant l'huile, le cellier avec les barils de vin, le magasin rempli de sacs de blé et le magot enterré derrière le tonneau de Saint-François. Il jouissait d'une santé de fer et n'avait jamais été gravement malade. Et il tenait tellement à tout ce qu'ils avaient amassé au prix de tant d'efforts et de privations, qu'ils ne se disaient même pas qu'un jour viendrait où ils devraient s'en séparer et le laisser malgré eux à des parents éloignés dont ils ne voulaient pas entendre parler. « Mais c'est une caisse comme une autre, peux-tu bien le comprendre ?» Donna Salvatrice finit par trouver qu'il avait raison. Et un jour, ne sachant où ranger les chapelets de vigue sèches apportés par le métayer, elle dit « Ben, nous les mettrons là-dedans. » Don Stellario lui passait une par une, les examinant, donnant son avis sur la qualité des figues de cette année, qui lui semblait médiocre. Puis il les couvrit de baume et de romarin pour qu'elles ne soient pas piquées des vers comme l'autre fois. Et la caisse archipleine resta entrebâillée, quoiqu'elle eût un couvercle bombé comme une malle. « C'est solide !» conclut-il, en s'applaudissant encore de son acquisition, après avoir frappé à deux mains sur le couvercle. Néanmoins, depuis quelque temps, lorsque lui et sa sœur allaient faire leur ronde nocturne accoutumée, ils avaient un petit frisson dans le dos en passant devant ce coffre qui attirait les yeux par la couleur de son bois blanc au milieu des objets les plus divers, noircis par le temps et par la poussière. « Oh, Don Stellario !» grommelait la sœur. « Vous direz ce que vous voudrez, mais cette affreuse caisse me paraît de mauvais augure pour nous. » Elle lui disait « vous » par respect, parce que c'était un homme. « Saute !» lui répondait-il. « Saute !» « Il y a déjà 6 mois qu'on est ici. Où est-il, le mauvais augure ?» Et il faisait la grosse voix pour cacher l'impression désagréable qu'il éprouvait malgré lui. Toutes les fois que, en allant à la messe de Rosario, Dans le scénario, ça pourrait être chez le menuisier, celui-ci, qui ne pouvait lui pardonner la bouteille de vin aigre et qui avait le rire brutal, ne manquait jamais, après son traditionnel « Bénédicité, mon vieux compère !» de lui répéter ce refrain. « En avez-vous encore de ce fameux vin muscat ?» Et le voyant rire, il ajoutait bientôt « Vous avez agi comme les Juifs avec Jésus-Christ, en me donnant le fiel de ses 15 francs et le vinaigre par-dessus le marché. Mais il n'y a pas de bon Dieu là-haut, si je vous fourre pas moi de mes propres mains dans le tabotu que vous m'avez filouté. » Au commencement, dans le scénario, s'amusait des méchancetés du compère. Il n'était pas une femme lettre croyant au mauvais sort. Et puis, il fallait bien laisser le pauvre homme exhaler sa mauvaise humeur. Est-ce qu'il reprendrait la caisse en parlant ainsi? Et il lui répondait, « Quand le mal est passé, on n'y pense plus. » Aujourd'hui, pourtant, qu'il sentait aussi toutes les nuits ce petit frisson lui parcourir l'échine, en voyant la caisse dans la grande chambre avec son couvercle entrebâillé, comme s'il n'était pas rempli de figues, mais attendait quelqu'un dans ses flancs, dans le scénario, riait jaune. Et un matin, aussitôt que le menuisier recommença la lugubre plaisanterie, l'interrompit. « Oh, est-ce fini, compère, dolce di colo? Vous devriez plutôt me remercier. » Il tourna les talons, tandis que l'autre grognait derrière lui. « Vous remerciez ?» Don Stefano n'entendit pas la suite, et ce fut tant mieux. Et à partir de ce jour-là, il ne mit plus les pieds dans la boutique. Cela ne servit à rien. Il remarquait un peu de faiblesse dans ses jambes en montant l'escalier de la maison, un peu d'essoufflement quand il arrivait au dernier palier, comme si les marches étaient doublées. Et pourtant, depuis plus de 60 ans, il les avait grimpés 10 fois par jour, pour que la semaine devienne dans l'ombre de fatigue. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi ai-je des vertiges quand je me lève et la tête lourde une partie de la matinée? Il haussait les épaules, ne voulait pas y penser. Cependant, il regardait avec un peu d'envie sa sœur, qui était solide comme une barre de fer, et qui sautait à bas du lit avant le jour, ne restait jamais une minute, les bras croisés, et allait en haut et en bas, à la cave et au grenier, sans jamais se reposer, comme si elle n'avait pas 5 ans de plus que lui. Non, il ne voulait pas y penser. Et comme il n'allait pas à la campagne depuis un certain temps, un matin, pour se distraire, il mit à la naisse la vieille selle toute usée, dont les étriers et la croupière ne tenaient qu'à force de ficelle, et il partit pour Balata. Quoique le ciel fût menaçant et que sa sœur lui conseillât « Ne sors point par un temps pareil !» À mi-chemin, commença à tomber une petite pluie fine. Don Stellario jeta son manteau sur ses épaules, releva son capuchon et lâcha à coups d'aiguillon de faire allonger le pas à la pauvre vieille bête qui mettait un pied devant l'autre avec un grand flegme en secouant ses oreilles inaccoutumées à toutes ses piqûres, mais sans se décider à marcher plus vite, comme si elle voulait reprocher à son maître l'aventure qu'il ne lui donnait pas. Puis le tonnerre et les éclairs et une pluie torrentielle. Dom Stefario cherchait à se garantir de son mieux. Avec un vieux manteau râpé qui absorbait l'eau sans perdre une goutte, il épiait la campagne environnante pour découvrir une cabane où se réfugier, regrettant de n'avoir pas écouté sa sœur et de s'être aventuré à la légère. « Vous ferez mieux de rebousser chemin. Avec cette limace, je serai mort en arrivant à la Malata. » Mais il dut lutter de longs instants avant que l'âne, abasourdi par ce déluge, se décida à faire demi-tour. C'était un vrai désastre. À peine arrivé à la maison, il fut obligé de se mettre au lit. Rien ne parvint à le réchauffer, ni un bon verre de vin, ni l'infusion de tilleul préparée par sa sœur, qui ne cessait de lui répéter « Mais vous auriez dû m'écouter !» Mais à quoi cela t'avance-t-il de grogner maintenant ? Finit par lui répondre Don Stellario agacé. Il voyait passer et repasser devant ses yeux le cercueil, et dans ses oreilles bourdonnaient les menaces de maître Noce di Collo. Je vous y fourrais, moi, de mes propres mains, dans le tabutu que vous m'avez filouté. Et ce n'était pas la fièvre seule qui le faisait claquer les dents. Donna Salvatrice, voyant que depuis 2 jours son frère allait plus mal et que les tisanes ne lui procuraient aucun soulagement, se demanda un matin si, même à cause du monde, elle ne ferait pas bien d'appeler un médecin. « Oh, cela ne servira peut-être à rien, et ce sera une dépense, mais je saurai à quoi m'en tenir, » s'écria-t-elle tristement en pensant qu'elle resterait toute seule dans le cas d'un malheur à sa pauvre frère. « Comment te trouves-tu? Faut-il envoyer chercher le docteur ?»« Es-tu folle ?» cria Don Salario, en ouvrant de grands yeux, comme s'il avait entendu dire « Tout est fini pour toi. » En faisant un effort, il se redressa dans son lit, mais la toux le contraignit à se recoucher. Il était exténué. Il avait une fièvre de cheval. Pourtant, il ne voulait ni médecin, ni médicament. « Oh, c'est un rhume, tout bonnement. Les infusions du tilleul sont bien suffisantes. Gâcher de l'argent chez le médecin et le pharmacien. Des filous et des menteurs, oui, oui, des filous et des menteurs. Entends-tu ? On frappe, on veut peut-être du vin. » De temps en temps arrivaient les clients habituels et Donna Salvatrice accourait. Et en revenant près du lit du malade, elle rapportait l'odeur du vin qu'elle avait servi. 4 sous, c'était commerce. Puis là, aujourd'hui, on l'a vendu seulement pour 7 francs de celle du fût de la Madone. Oh, il reste encore 6 saleux. T'as pas revu, Colabarca? Je te l'ai dit. Il veut te payer 3 francs le baril. Il prétend que le prix a baissé. Oh, 10 francs, 10 francs, ne le laisse pas entortiller. Occupe-toi de guérir et que la Madone te vienne en aide, répétait Donna Salvatrice et toutes les fois qu'il se mettait à parler d'intérêt. De jour en jour, cependant, elle perdait confiance en la guérison désirée. Debout, au pied du lit, elle observait le malade en hochant tristement la tête quand il ne pouvait pas la voir. « Pauvre homme, il s'est attiré lui-même le mauvais sort en achetant cette maudite bière, comme s'il avait le pressentiment qu'elle servirait pour lui. » Et lorsqu'elle traversa la grande chambre en passant devant le cercueil, Donna Salvatrice, les larmes aux yeux, enlevait 2 ou 3 chapelets de figues sèches et les rangeait dans une armoire. Mais là, il faut la débarrasser. Mais elle n'en soufflait moins à son frère pour ne pas l'effrayer. Enfin, est-ce qu'il mourra sans médecin et sans confesseur ? Lui dit un jour, comme Stella en la tirant à l'écart. Mais il n'en veut pas, il n'en veut pas. Au moins le confesseur, ajouta Commerstella. En voyant entrer le prêtre dans sa chambre sous prétexte d'une visite, le malade perdit subitement courage. Don Stellario, je suis venu par hasard pour goûter du vin, ayant appris que vous gardiez le lit. Oh, ce ne sera rien, faut pas vous tourmenter. Il est inutile de chercher à me tromper, bégaya Donna Stellario d'une voix larmoyante, puis s'adressant à sa sœur. Toi, pense à vider la caisse. Il regardait le prêtre avec crainte. Dites-moi la vérité, il n'y a plus d'espoir pour moi. Les sacrements, si vous les voulez, sont un excellent remède. N'en sommes pas là, non, non, il n'y a pas de danger pour l'instant, mais... Oui, je comprends, je comprends. Dès que le prêtre avertit Donna Salvatrice qu'il reviendrait bientôt avec le viatique et l'extrême onction, ce fut un remue-ménage dans sa chambre du malade. Les deux femmes voulant mettre un peu d'ordre dans ce chenil, balayer, épousseter, pour recevoir dignement le bon Dieu, Don Stellario les suivait du regard avec des yeux apeurés. Il lui semblait qu'on le dépouillait d'avance en voyant emporter de sa chambre tous les objets amoncelés sur les chaises et sur la table qu'il fallait préparer avec une nappe et des bougies. Commère Stella brûla même deux morceaux de sucre pour dissiper la mauvaise odeur. Mon Dieu, être si riche avec avoir une chambre comme une écurie, disait-elle à part soi. Salvatrice, appela le malade. Elle s'approcha, se pencha sur lui, pour lui éviter la peine d'élever la voix. La caisse, il n'y a pas besoin de la faire servir d'étoffe. C'est de l'argent perdu, tu entends. Mais ne parlons pas de cela, tu vas bien. J'ai fait brûler un cierge à la Madone del Sella qui t'accordera le miracle. Ce n'était pas vrai, mais le pieux mensonge fut un bon augure. Lorsque Don Stellario se sentit, comme il disait, positivement revenu de l'autre monde, et qu'il posa les pieds par terre, la première chose qu'il demanda à sa sœur, ce fut si le cierge avait brûlé tout entier. En apprenant la vérité, il s'en réjouit énormément. Si j'avais dû mourir, je serais mort quand même. Le jour où il put sortir de sa chambre, il voulut d'abord voir le taboutou qui se trouvait grand ouvert, tel que l'avait laissé Donna Salvatrice dans sa hâte de le débarrasser des figures sèches. Don Stellario lui fit des cornes et lui dit « Maintenant nous y remettrons des figues !» La première fois qu'il fut en état d'aller à la messe, passant avec satisfaction devant la boutique de Maître Noce di Conre, il s'arrêta sur le seuil. « Bonjour, mon compère !»« Oh oh, qu'est-ce que je vois ? Bénédicité, monsieur mon compère ! Vous venez donc là ? Vous avez donc là la recette de Paolo Borra, comme disent les gens de Mirko. Quelle recette ? Maître Croce cessa de raboter, enleva ses lunettes, aspira une prise de tabac et, restant près de son établi, reprit. Écoutez bien, Paolo Borra, le poète, avait un compère. Mais admettons que c'était vous. Et un jour, ce compère tomba malade, comme vous, Paolo Borra, alla le voir. Mais vous, vilain compère, vous n'êtes pas venu, interrompit Don Stellario. J'ai eu tort, oui. Donc le poète alla le voir, oui, j'ai entendu. Et il lui dit, mon compère, voici un papier, plus miraculeux que n'importe quel remède. « Cet ami, ajouta Maître Croce en changeant de ton, était plus rapien que vous et avait un muscat pire que le vôtre, mais il le gardait pour lui. Pour en revenir au poète, mon compère, continua-t-il, il suffit de le garder pour votre oreiller. Surtout ne le lisez pas avant d'être guéri. Il vous tuerait, mon cher compère. » Une fois guéri, celui-ci voulut voir ce que le diable contenait ce papier. Et devinez ce qu'il y avait écrit, devinez. Il était écrit. Réjouissez-vous, monsieur mon compère. Les méchants gens ne meurent jamais. Oh, je vais jurer de ne plus jamais revenir dans cette boutique. C'est bien fait pour moi, grommela Don Stellario, en tournant les talons. Ils ne s'attendaient certes pas à cela. Ayant donc échappé au tombeau, il était devenu plus guilleret, et souvent il se livrait à des plaisanteries sur le cercueil qui lui avait plutôt porté bonheur. Cette année-là, en effet, il eut une récolte extraordinaire. Les jarres d'huile débordaient, tous les fûts étaient pleins jusqu'au dernier baril, si bien qu'il valut acheter des tonneaux d'occasion pour ne pas jeter le vin dans la rue. Les greniers menaçaient de s'effondrer sous le poids des blés, des fèves, des haricots et des caroubes amoncelées dans les coins, au milieu partout. On ne pouvait faire un pas sans marcher sur quelque chose. « As-tu vu, grosse bête, as-tu vu ?» disait-il à sa sœur, qui se montrait d'une humeur toute différente. « La bière m'est donc destinée !» pensait fréquemment Donna Salvatrice. Parfois, elle semblait vouloir s'en prendre au bon Dieu et à la Madone della Stella, parce qu'ils avaient retenu son frère au bord de la tombe, quand il avait déjà reçu le viatique et l'extrême-onction, et qu'il était bien résigné à mourir. Mauvaise pensée qui lui passait par la tête presque à son insu. Et plus elle vieillissait, et plus elle se cramponnait à la vie. Et plus elle prenait en aversion cette horrible caisse remplie de fixèches qui encombrait la grande chambre. « Portons-la dans la mansarde, » proposa-t-elle un jour à son frère. « Oui, pour que les rats nous rongent la caisse et les figues, » répondit Don Stellario. « Bien, porte-la dans la mansarde, ici elle gêne trop. »« Ici on pourrait faire de l'escrime, » répliqua le frère, qui ne comprenait rien à cette insistance, déraisonnable à son point de vue. Et le mécontentement lui faisait dire une sottise. Car il y avait tant et tant de choses empilées dans la pièce, qu'en la traversant, il fallait prendre bien garde à ne pas se casser les jambes. Donna Salvatrice fut plus entêtée. Profitant un jour de ce que son frère était à la campagne, elle se hâta de vider la caisse et appela Coberstella pour qu'elle lui donne un coup de main. « Oh, il faudrait un homme, » dit la vieille. « Mais non, non, elle n'est pas lourde. Allons, allons. » Et après de nombreux arrêts pour reprendre haleine, elles arrivèrent à la mansarde, baignées de sueur, essoufflées, éreintées. Donna Salvatrice, ayant bu un peu de vin, en donna aussi un doigt à la Coberstella, et cette prodigalité parut prodigieuse à la pauvre femme. Oh ! La sœur de Don Stellario sentait sa poitrine s'élargir en ne voyant plus dans la grande chambre cette caisse de mauvais augure, comme si le tout bouteau, enlevé de là, elle ne devait plus mourir jamais. Adieu les figues ! S'écria mélancoliquement Don Stellario quand il s'aperçut du déménagement. Comment avoir des idées tristes avec tout ce monde qui allait et venait depuis une semaine pour la vente en gros du vin, des grains et du sumac, avec toutes ces pièces blanches aux yeux rouges qui affluaient à ce point qu'on n'avait même pas le temps de les compter avant de les mettre dans les petits sacs et de les cacher un peu partout, avant de les enterrer avec les autres derrière le panneau de Saint-François. Kolanaska faisait des voyages avec sa voiture chargée de barils. Les marchands de sel d'Augusta, ayant vendu leurs marchandises en chemin, accouraient chercher le blé, encombrant la ruelle avec leurs traînées de bullets, criant, jurant, tandis que Don Saltario surveillait le mesureur et que Donna Salvatrice et Coberstella, armés de balais, veillaient à ce que pas un grain ne se perde. Un jour, Kolanaska était venu avec des charrettes pour vider en une seule fois le tombeau de Saint-François. Donna Salvatrice était à la cave depuis l'aube, assis dans un coin près du foudre, tenant la taille d'une main, et de l'autre un mauvais couteau de deux sous pour ne pas se faire voler dans le compte par ce brouillon. À chaque 16 mesures, elle faisait une coche sur la planchette divisée en deux pour que Nazar eût sa moitié. Comme cela, il n'y avait pas d'erreur possible. De temps en temps, Dom Stellario apparaissait couvert de poussière et demandait « Où en sommes-nous ? « 8 salmes, 10 salmes, là-haut nous avons presque fini, il ne reste plus que les pois chiches à mettre en sac. Oh, Madonna de la Stella !» Il avait vu Donna Salvatrice pâlir, tourner les yeux et pencher la tête d'un côté. Elle serait tombée de sa chaise si Kolanoska ne l'avait soutenue en criant « Madame, madame !» Oh, ce n'est rien, ce n'est rien, une faiblesse. Ferme la bande, Cocorace, Salvatrice, ma sœur. » Il lui frotta les mains et les tempes pour la faire revenir à elle, l'appelant, lui secouant tantôt un bras, tantôt l'autre. « Ce sera rien, Salvatrice, ferme la bande, Cola. » Donna Salvatrice, blanche comme un linge, ne reprenait pas ses sens, ne donnait pas signe de vie. « Emportons la dyspepsie, dit Noska. C'est probablement l'odeur du vin qui en est la cause, pauvre dame. » C'était au contraire la rupture d'une artère qui ne lui avait même pas donné le temps de dire « Jésus ». Dom Stellario errait dans sa maison, en se donnant des coups de poing sur la tête, se refusant à croire au grand malheur qui le frappait à l'improviste. Il ne voulait pas se montrer dans sa chambre de la morte pour garder la conviction que sa sœur vivait encore. Pourtant, dans le courant de la soirée, il se rappela qu'il fallait vider la caisse, et il monta à la mansarde, tout seul, avec un lumignon qui n'éclairait guère. « Oh, ma pauvre sœur, hélas, c'est à toi qu'elle était destinée. » Et tout en mettant les chapelets de fixège dans le sac qu'il avait apporté, il répétait ce refrain en secouant la tête, sans verser une larme, mais d'un ton qui paraissait risible et qui ne l'était pas. « Oh, ma pauvre sœur, oh, ma pauvre sœur !» Le matin, comme Stella va lui dire dans sa chambre, la fille raterrée. « Elle n'y entre pas !» Dès le premier moment, Don Stellario ne comprit pas. Il la regardait en face avec des yeux ahuris, sans bouger de sa chaise, les mains sur les genoux. « Non, monsieur, elle n'y entre pas !» répéta la femme en sanglotant. Don Stellario vociféra. « Elle n'y entre pas dans cette caisse-là, imbécile !» Cela lui semblait absurde. Et agitant nerveusement ses mains, il répétait encore « Imbécile, elle n'entre pas dans cette caisse-là !»« C'est l'ensevelisseuse qui l'a dit !» Oh, il manquait plus que cela. Est-ce possible dans cette caisse-là? Elle est un peu courte et un peu étroite, monsieur. Mais tu es stupide! Hurla Dom Stellario. Il tremblait de la tête aux pieds, il était fou de rage. C'est maître Noce di Corto qui t'a dit cela, hein? Fiche-moi la paix, idiote! Il y aurait aussi de la place pour toi, bête, stupide. » Et poussé par la colère, il s'élança dans la chambre funèbre. Pendant un instant, il hésita devant le cadavre qui ne pouvait entrer dans la bière. Puis il se mit à presser dessus avec précaution, comme pour ne pas lui faire du mal. « Que le bon Dieu te bénisse !» « Que le bon Dieu te bénisse » balbutia-t-il. « Il faut pourtant que tu y entres, ma sœur, il faut que tu y entres !» Il pressait, abaissant le couvercle pour essayer de fermer. Et que le bon Dieu te bénisse, il faut que tu y entres. Ça y est, oh, ça y est, oh, vous voyez bien qu'elle y entre, grosse bête, s'écria-t-il en s'adressant à l'ensevelisseuse. Que le bon Dieu te bénisse, requiem materna. Et après avoir donné un tour de clé à la serrure, il se jeta à genoux devant le cercueil, en pleurnichant son latin. Requiem materna, riscata in pace.